Paris, livre 3, chapitre 1. Ce mercredi, la veille du jeudi de la mi-carême, il y avait une grande vente de charité à l'hôtel du Villard, au bénéfice de l'œuvre des Invalides du Travail. Les appartements de réception du rez-de-chaussée, trois vastes salons Louis XVI dont les fenêtres donnaient sur la cour carrée intérieure, nus et solennels, allaient être livrés à la cohue des acheteurs, car 5000 cartes, disait-on, avaient été lancées dans tous les mondes parisiens. Et c'était un événement considérable, une manifestation, cet hôtel bombardé qui invitait ainsi la foule à entrer. La porte cochère ouverte à deux battants, le porche libre aux piétons et aux équipages. On disait tout bas, il est vrai, qu'une nuée d'agents de police gardait la rue Godeau de Mauroy et les rues voisines. Du Villard avait eu cette idée triomphante, et sa femme, devant sa volonté formelle, s'était résignée à tout ce tracas pour l'œuvre qu'elle présidait avec une distinction si pleine de nonchalance. La veille, le Globe, sous l'inspiration de son directeur Fonsègue, administrateur de l'œuvre, avait publié un bel article annonçant la vente, faisant ressortir ce que cette initiative charitable, prise par la baronne, qui donnait son temps, son argent jusqu'à son hôtel, offrait d'attendrissant, de noble, de généreux, après l'abominable crime qui avait failli réduire cet hôtel en poudre. N'était-ce pas la magnanime réponse d'en haut aux passions exécrables d'en bas? Et quelle réponse péremptoire à ceux qui accusaient la bourgeoisie capitaliste de ne rien faire pour les travailleurs, les blessés et les impotents du salariat. Les portes des salons devaient s'ouvrir à 2 heures pour ne se fermer qu'à 7, 5 heures pleines de ventes. Et à midi encore, pendant que rien n'était terminé au rez-de-chaussée, que des ouvriers et des femmes finissaient de décorer les comptoirs, de classer les marchandises, au milieu de la bousculade dernière, il y avait, comme les autres jours, dans les petits appartements du premier étage, un déjeuner intime où quelques amis étaient conviés. Ce qui venait de mettre au comble l'effarement de la maison, c'était que, le matin même, Sanier avait repris, dans la voix du peuple, sa campagne de dénonciation au sujet de l'affaire des chemins de fer africains. Il demandait, en phrase d'une virulence empoisonnée, si l'on comptait amuser longtemps le bon public avec l'histoire de cette bombe et de cet anarchiste que la police n'arrêtait pas. Et cette fois, il nommait carrément le ministre Barou comme ayant touché une somme de 200 000 francs. Il s'engageait à publier prochainement les 32 noms des sénateurs et des députés corrompus. Meige allait donc reprendre sûrement son interpellation, qui devenait dangereuse, dans l'énervement où la terreur anarchiste jetait Paris. D'autre part, on disait que Vignon et son parti étaient résolus à un effort considérable pour profiter des circonstances et renverser le ministère. Toute une crise s'annonçait, inévitable, redoutable. Heureusement, la chambre ne siégeait pas le mercredi, et elle s'était ajournée au vendredi, voulant fêter le jeudi de la mi-carême. On avait 2 jours pour se retourner. Ève, ce matin-là, était plus douce et languissante que de coutume, pâlie un peu, avec une préoccupation triste au fond de ses beaux yeux. Elle mettait cela sur le compte de la fatigue vraiment excessive que lui avaient causé les préparatifs de la vente. Mais la vérité était que, depuis 5 jours, Gérard l'évitait d'un air de gêne, après avoir esquivé tout rendez-vous nouveau. Certain qu'elle allait enfin le voir, elle avait osé encore se mettre en soie blanche, cette toilette jeune qui la rajeunissait. Mais toute qu'elle était restée, avec sa peau de blonde, sa taille superbe, son noble et charmant visage, Les 46 ans d'âge se faisaient durement sentir dans le teint qui s'empourprait et dans la flétrissure des lèvres, des paupières, des tempes délicates. Et Camille, elle aussi, bien qu'elle fût désignée naturellement comme une des vendeuses les plus achalandées, s'était obstinée à son ordinaire toilette. Une robe sombre, couleur carmélite, si peu jeune fille, sa toilette de vieille femme, comme elle la nommait elle-même avec son rire aigu. Mais sa longue face de chèvre mauvaise luisait d'une joie cachée, et elle arrivait à être presque belle, à faire oublier son épaule contrefaite, tant ses lèvres fines et ses grands yeux étincelaient d'esprit. Dans le petit salon bleu et argent où elles attendaient les convives, avec sa fille, Ève eut une première déception en voyant entrer seul le général de Beauzonnet, que son neveu Gérard devait amener. Il expliqua que madame de Quinsac s'était levée un peu souffrante et qu'en bon fils, Gérard avait tenu à rester près d'elle. D'ailleurs, tout de suite après le déjeuner, il viendrait à la vente. Pendant que sa mère écoutait, en s'efforçant de cacher sa peine, sa crainte de ne pouvoir en bas forcer Gérard à une explication, Camille la regardait de ses yeux dévorants. Ève dut avoir, à cette minute, l'instinct sourd du malheur dont la menace l'enveloppait, car elle regarda sa fille à son tour, inquiète, pâlissante. Puis, ce fut la princesse Rosemonde de Harz qui fit son entrée en coup de vent. Elle était aussi vendeuse au comptoir de la baronne, qui l'aimait pour sa turbulence, pour la gaieté imprévue qu'elle lui apportait. En toilette de satin feu, extravagante, avec sa tête bouclée, sa maigreur de gamin, elle riait, racontait un accident qui avait failli couper en deux sa voiture. Et comme le baron du Villard et son fils Hyacinthe arrivaient de leur chambre, toujours en retard, elle s'empara du jeune homme, le gronda, parce que la veille, elle l'avait vainement attendu jusqu'à 10 heures, malgré sa promesse de la conduire dans une taverne de Montmartre où il se passait des horreurs, disait-on. D'un air ennuyé, Hyacinthe répondit que des amis l'avaient retenu, une séance de magie, pendant laquelle l'âme de Sainte Thérèse était venue réciter un sonnet d'amour. Mais Fonsègue arrivait avec sa femme, une grande femme maigre, silencieuse, insignifiante, qu'il n'aimait point sortir, allant partout en garçon. Cette fois, il avait dû l'amener, car elle était dame patronesse de l'œuvre, et lui-même venait déjeuner comme administrateur, s'intéressant à la vente. Il entra de son air gai habituel, pétulant dans sa petite taille d'homme resté brun à 50 ans, portant la redingote avec la correction d'un brasseur d'affaires qui avait charge d'âme, le bon renom de la République conservatrice, dont le globe était l'organe. Ses paupières, cependant, battait d'inquiétude pour qui le connaissait bien, et son premier regard interrogea du Villard, anxieux sans doute de savoir comment celui-ci supportait le nouveau coup du matin. Quand il le vit fort tranquille, superbe et fleuri ainsi qu'à l'ordinaire, plaisantant avec Rosemonde, lui-même se mit à l'aise, en joueur qui n'avait jamais perdu, ayant toujours su vaincre la fortune, même aux heures de trahison. Et tout de suite, il montra la liberté de son esprit en causant administration avec la baronne. « Avez-vous vu, enfin, monsieur l'abbé, pour ce vieillard, ce la-veuve qu'il nous a si chaudement recommandé? Vous savez que toutes les formalités sont remplies et qu'on peut nous l'amener, car nous avons un lit vacant depuis 3 jours. »« Oui, je sais, mais j'ignore ce que l'abbé Froment est devenu. » Voici plus d'un mois qu'il n'a donné signe d'existence, et je me suis décidée à lui écrire hier, en le priant de venir aujourd'hui à ma vente. De cette façon, je lui annoncerai la bonne nouvelle moi-même, de vive voix. C'est bien pour vous en laisser la joie que je ne l'ai pas averti, administrativement. Un charmant prêtre, n'est-ce pas? Oh, charmant, nous l'aimons beaucoup. Du Villard intervint, pour dire qu'on ne devait pas attendre Dutheil, car il avait reçu une dépêche du jeune député qu'une brusque affaire retenait. L'inquiétude, reprit Fonsègue, dont les yeux de nouveau interrogèrent le baron. Mais celui-ci, qui souriait, voulut bien le rassurer en lui disant à demi-voix « Rien de grave, une commission pour moi, une réponse qu'il ne pourra m'apporter que tout à l'heure. » Puis, l'emmenant à l'écart, « À propos, n'oubliez pas d'insérer la note que je vous ai recommandée. »«
Quelle note ?»«
Ah oui, cette soirée où Sylviane a dit une pièce de verre. Je voulais vous en parler. Ça me gêne un peu, à cause des éloges extraordinaires qu'elle contient. » Si plein de sérénité tout à l'heure, avec son grand air de conquête et de dédain, Duvillard maintenant pâlissait, pris de détresse. « Mais je veux absolument qu'elle passe, cher ami. Vous me mettriez dans le plus mortel embarras, car j'ai promis à Sylviane qu'elle passerait. » Et tout son désarroi de vieil homme à coquiner, prêt à payer de n'importe quel prix le plaisir dont on le sevrait, apparut dans l'effarement de ses yeux et le tremblement de ses lèvres.
« Bon, bon !» dit Fonsègue, qui s'égaya discrètement, heureux de cette complicité.
« Du moment que c'est si grave, la note passera. Je vous en donne ma parole d'honneur. » Tous les convives se trouvaient là, puisqu'on n'avait à attendre ni Gérard ni Dutheil, et l'on passa enfin dans la salle à manger, pendant que les derniers coups de marteau montaient des salons de vente en bas. Ève était entre le général de Boisonnet et Fonsègue, Duvillard entre Madame Fonsègue et Rosemonde, et les deux enfants, Camille et Hyacinthe, occupaient les deux bouts. Ce fut un déjeuner un peu hâté, un peu bousculé, car des femmes de service à trois reprises vinrent soumettre des difficultés, demander des ordres. Continuellement, les portes battaient, les murs eux-mêmes semblaient être secoués par le branle inusité dont les derniers préparatifs agitaient l'hôtel. Et l'on causa à bâtons rompus, tous gagnés par la fièvre, sautant d'un bal donné la veille au ministère de l'Intérieur, à la fête populaire qui aurait lieu le lendemain, jour de la mi-carême, retombant toujours à l'obsession de la vente. Le prix qu'on avait payé les objets, le prix qu'on les vendrait, le chiffre probable de la recette totale, tout cela noyé dans d'extraordinaires histoires, dans des plaisanteries et des rires. Le général ayant nommé le juge d'instruction à Madieu, Ève dit qu'elle n'osait plus l'inviter à déjeuner, tant elle le savait pris au palais. Mais elle espérait bien qu'il allait venir lui faire son offrande. Fonsègue s'amusait à taquiner la princesse Rosemonde sur sa robe de satin bleu, où il prétendait qu'elle cuisait déjà de toutes les flammes de l'enfer. Ce qui la ravissait au fond, dans son satanisme, sa passion du moment. Duvillard se montrait correctement galant à l'égard de la silencieuse Madame Fonsègue, tandis qu'Hyacinthe, pour étonner la princesse elle-même, expliquait en mots rares l'opération de magie, par laquelle on faisait un ange d'un homme vierge après l'avoir dépouillé de toute virilité. Et Camille, très heureuse, très excitée, jetait de temps à autre un regard brûlant sur sa mère, qui s'inquiétait et s'attristait davantage à mesure qu'elle la sentait plus vibrante, plus agressive, résolue à la guerre ouverte et sans merci. Comme le dessert s'achevait, la mère entendit sa fille dire très haut d'une voix perçante de défi « Ah ! Ne me parlez pas de ces vieilles dames qui semblent jouer encore à la poupée, fardées et habillées en communiantes. Au fond, toutes des ogresses. Je les ai en horreur !» Nerveusement, Ève se leva, s'excusa. « Je vous demande pardon de vous presser ainsi. Vraiment, on ne sait si l'on déjeune. » Mais j'ai peur qu'on ne nous laisse pas prendre le café. Et tout de même, nous allons respirer un peu. » Le café était servi dans le petit salon bleu et argent où fleurissait une admirable corbeille de roses jaunes. Cette passion que la baronne avait pour les fleurs et qui changeait l'hôtel en un continuel printemps.
Tout de suite, leurs tasses fumantes à la main, Duvillard emmena Fonsègue dans son cabinet pour fumer un cigare, en causant librement. Et d'ailleurs, la porte resta grande ouverte. On entendait leurs grosses voix confuses. Le général de Bozonnet, ravi d'avoir trouvé en Madame Fonsègue une personne sérieuse et résignée, écoutant sans jamais interrompre, lui racontait la très longue histoire de la femme d'un officier qui avait suivi son mari dans toutes les batailles en 1870. Hyacinthe ne prenait pas de café, qu'il appelait avec mépris un breuvage de concierge. Il se délivra un instant de Rosemonde, occupé à boire un petit verre de cumel, à léger coup de langue. Et il vint dire tout bas à sa sœur, « Tu sais, c'est stupide ce que tu as lancé tout à l'heure pour maman. Moi, je m'en moque, mais ça finit par se voir, et je t'avertis que ça manque de distinction. » Camille le regarda fixement de ses yeux noirs. « Toi, je te prie de ne pas te mêler de mes affaires. » Il fut pris de peur. Il flaira l'orage et se décida à conduire Rosemonde dans le grand salon rouge voisin pour lui montrer un tableau nouveau que son père avait acheté la veille. Le général appelé par lui y amena Madame Fonsègue. Alors, la mère et la fille se trouvèrent un instant seules en présence. Ève, comme brisée, s'était appuyée à une console, lasse au moindre chagrin, d'une molle bonté toujours prête aux larmes dans son naïf et complet égoïsme. Pourquoi donc sa fille l'exécrait-elle ainsi? S'acharnait-elle à troubler le dernier bonheur d'amour où son cœur s'attardait? Elle la regardait, navrée, plus désespérée qu'irritée. Et elle eut l'idée malheureuse, au moment où la jeune fille allait, elle aussi, passer dans le salon, de la retenir, pour lui faire une observation sur sa toilette. « Tu as bien tort, ma pauvre enfant, de t'entêter à t'habiller en vieille femme. Ça ne t'avantage guère. » Et dans ses yeux tendres de belle femme courtisée, adorée, apparaissait clairement sa pitié à l'égard de cette créature laide et contrefaite qu'elle n'avait jamais pu s'habituer à reconnaître pour sa fille. Une épaule plus haute que l'autre, de longs bras de bossu, un profil de chèvre noire. Était-ce possible qu'une telle disgrâce fût sortie de sa beauté souveraine, cette beauté qu'elle avait passé sa vie entière à aimer elle-même, à soigner avec dévotion la religion unique qu'elle eût pratiquée? Toute sa peine et toute sa honte d'avoir eu une pareille enfant tremblaient dans sa voix. Camille s'était arrêtée net, comme si un coup de cravache l'avait cinglée en plein visage. Elle revint près de sa mère, et l'abominable explication partit de là, de ces simples paroles, dites à demi-voix. « Tu trouves que je m'habille mal? Il fallait t'occuper de moi, veiller à ce que mes toilettes fussent de ton goût, m'apprendre ton secret d'être belle. » Déjà, Ève regrettait son attaque, ayant horreur des impressions pénibles, des querelles aux mots blessants. Elle voulut se dérober, surtout à ce moment de hâte lorsqu'on les attendait en bas pour la vente. « Voyons, tais-toi, ne fais pas la méchante, lorsque tout ce monde peut nous entendre. Je t'ai aimé. » D'un petit rire contenu, terrible, Camille l'interrompit. « Tu m'as aimé? Ah, ma pauvre maman, quelle drôle de chose tu dis là. Est-ce que tu as jamais aimé quelqu'un? Tu veux qu'on t'aime, et ça, c'est autre chose. Mais ton enfant, un enfant, est-ce que tu sais seulement comment on l'aime? Tu m'as toujours abandonnée, écartée, lâchée, me trouvant trop laide, indigne de toi, n'ayant d'ailleurs pas assez déjà des jours et des nuits pour t'aimer toi-même. Et ne mens donc pas, ma pauvre maman, tu es encore à me regarder là comme un monstre qui te répugne et qui te gêne. » Dès lors, ce fut fini. La scène dut aller jusqu'au bout, dans un chuchotement de fièvre, visage contre visage, les dents serrées. « Je t'ordonne de te taire, Camille. Je ne puis supporter un tel langage. Je n'ai pas à me taire lorsque tu cherches à me blesser. Si j'ai le tort de m'habiller en vieille femme, c'est que peut-être une autre a le ridicule de s'habiller en jeune fille, en mariée. »
En mariée? Je ne comprends pas. »
Oh, tu comprends parfaitement. Je veux pourtant que tu le saches. Tout le monde ne me trouve pas aussi laide que tu sembles t'efforcer de le faire croire. »
Si tu es laide, c'est que tu t'arranges mal. Je n'ai pas dit autre chose. »
Je m'arrange comme il me plaît. Et très bien, sans doute, puisqu'on m'aime tel que je suis. »
Vraiment? Quelqu'un t'aime?
Qu'il nous le fasse donc savoir et qu'il t'épouse. »
Mais certainement, mais certainement. Ce sera un bon débarras, n'est-ce pas? Et tu me verras en mariée. »
Leur voix montait malgré leur effort. Camille s'arrêta, reprit haleine, ajouta d'une voix basse et sifflante. «
Gérard doit venir ces jours-ci. Vous demandez ma main. »
Blême, Ève parut ne pas avoir compris. «
Gérard, pourquoi me dis-tu cela ? » «
Mais parce que c'est Gérard qui m'aime et qui va m'épouser. Tu me pousses à bout, tu me répètes toujours que je suis laide, tu me traites en monstre dont personne ne voudra. Et il faut bien que je me défende, que je t'apprenne ce qui est pour te prouver que tout le monde n'a pas ton goût. »
Il se fit un silence. La querelle parut finie, devant l'affreuse chose, tout d'un coup évoquée, dressée entre elles.
Mais il n'y avait plus là une mère et une fille. C'étaient deux rivales qui souffraient et combattaient.
Ève respira longuement, regarda, dans l'angoisse, si personne n'entrait pour les voir et les entendre. Puis, résolue, « Tu ne peux pas épouser Gérard. »
« Pourquoi donc ne puis-je pas épouser Gérard ?»«
Parce que je ne le veux pas, parce que c'est impossible. »
« Ce n'est pas une raison, cela. Dis-moi la raison. »
« La raison, c'est que ce mariage est impossible. Voilà tout. »
« Non, la raison, je vais te la dire, moi, puisque tu m'y forces. La raison, c'est que Gérard est ton amant. Mais qu'est-ce que ça fait, puisque je le sais et que je veux bien de lui tout de même. »
Ses yeux enflammés ajoutaient
« Et que c'est pour cela, surtout, que je le veux. »
Sa longue torture d'infirme, sa rage d'avoir, depuis le berceau, vu sa mère belle, courtisée, adorée, la soulevait, se vengeait en un triomphe méchant. Enfin, elle le lui prenait donc, cet amant si longtemps jalousé.
« Tu es une malheureuse !»
bégaya Ève, défaillante, frappée au cœur.
« Tu ne sais ce que tu dis et ce que tu me fais souffrir !»
Mais elle dut se taire de nouveau, se redresser et sourire, car Rosemonde, accourue du salon voisin, lui criait qu'on la demandait en bas. Les portes de l'hôtel allaient être ouvertes. Il fallait qu'elle fût à son comptoir.
Oui, tout de suite, elle descendait.
Et elle s'appuyait à la console, derrière elle, pour ne pas tomber.